pour le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons, axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invités à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Et salut! Aujourd'hui, je vous fais un épisode qui va s'intituler « La liberté qu'offre le maternage ». Alors au tout départ, je voulais l'intituler « Voyage et maternage ». Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez écouter cet épisode de podcast, je serai partie avec ma tribu en Indonésie. C'est pas une nouveauté pour moi, j'ai toujours été une personne qui aime les voyages. C'est quelque chose de très structurant dans ma vie. J'ai tendance à être tout le temps à 200% dans mon quotidien en France et j'ai découvert alors que j'étais toute jeune adulte à peine à la majorité les voyages, ça a quelque chose qui m'a vraiment apporté beaucoup parce que découvrir des nouveaux horizons c'est toujours plaisant, mais au-delà de ça il y a vraiment être immergé dans une culture, me retrouver, être la personne qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas du tout les codes, ça m'oblige à prendre du recul, ça me met dans une posture d'observation encore plus que celle que je peux avoir d'ordinaire, et vraiment ça me pousse à plus d'humilité. C'est quelque chose qui est très, très fort pour moi, qui me nourrit énormément. Et donc j'ai voyagé donc plusieurs fois, parfois je suis partie quelques mois, je suis même partie plusieurs années. Et en gros, ça a façonné la jeune maman que j'ai été. Si vous voulez entendre l'épisode hors série numéro 1, j'en parle un petit peu. Il s'appelle « Culture et enfantement ». Et là, j'évoque en quoi ces voyages ont façonné la maman que j'ai été. Et puis encore aujourd'hui, hein, la maman un petit peu plus expérimentée que je suis à ce jour, a vraiment bénéficié de la possibilité, de l'opportunité que j'ai eue de voir d'autres parents différents materner leurs enfants. Et je me suis rendu compte que finalement, très naturellement, le maternage nous offrait une grande liberté. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. On nous dit parfois que c'est galère de voyager avec des tout-petits, que ça sert à rien parce qu'elles s'en souviendront pas. Moi, je pense que ce discours-là, il est assez réducteur et pas tout à fait vrai parce que oui, même s'ils n'ont pas des souvenirs très précis et qu'en effet, la mère, peu importe où c'est toujours la mère, ben, en réalité, non, parce que les expériences sensorielles, elles sont très différentes. On sait aujourd'hui par rapport au langage que le langage qui est entendu par l'enfant, il va venir activer différentes zones du cerveau. Et tout ça, mine de rien, ça fait partie des expériences qu'on va pouvoir lui offrir, qui sont très variées. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est super riche et j'aime vivre ces moments-là avec eux. Et j'aime encore plus me retrouver dans des espaces où moi non plus, je ne maîtrise pas les codes comme eux. Et finalement... Je trouve que ça nous aide vraiment à renouer avec l'enfant intérieur qu'on est. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Parmi les différents voyages que j'ai faits en famille, je suis partie 3 mois toute seule avec mes 2 enfants et qui avaient alors 8 ans. Enfin, elle a fêté ses 8 ans là-bas et 5 ans. Et donc, pour la petite histoire, moi, je parle thaïlandais. Donc, on avait déjà fait 1 mois et demi. En Thaïlande, on avait fait un peu la Malaisie et on partait en Birmanie, un pays que je découvrais avec eux, que je ne connaissais pas du tout et mes enfants s'étaient habitués à ce que je puisse leur traduire ce qui se passait. Et à chaque fois, ils me disaient « ils ont dit quoi ? Ils ont dit quoi ?» Et moi, en Thaï, je pouvais faire cette traduction, mais en Birmanie, je ne pouvais pas. Et c'était très drôle parce qu'en fait, quand mes enfants continuent à me dire « bah alors, il a dit quoi ?» Je sais pas, mais là, on est obligé de faire confiance, on se retrouve dans des situations comme ça qui peuvent paraître très challengeantes, mais qui, moi, vraiment, me font renouer avec cette humanité, cette foi qu'on doit avoir. Et c'est vraiment une posture à part entière, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous proposer un petit texte que j'avais écrit sur Instagram il y a quelques temps, et qui reflétait vraiment ce que j'avais envie de partager. C'est dans les milieux extrêmes qu'on mesure combien le maternage proximal est le plus naturel, le plus sécuritaire et salvateur. Bien sûr, les bébés humains sont des warriors et elles s'adaptent à des conditions de vie très éloignées de ce que l'évolution les a programmées pour. Et elles survivent en buvant des préparations commerciales, en dormant éloignées de leurs parents, en étant véhiculées dans des engins à roues. Et elles font même mieux que survivre, ils s'épanouissent ainsi. Quelle incroyable résilience! Mais malgré ces capacités d'adaptation hors du commun, on ne peut que constater leur goût inné pour le maternage. Un enfant va naturellement demander votre présence, vos bras, votre attention, votre chaleur. Acceptez que ce sont des besoins primaires naturels et pas des demandes excessives ou même de la manipulation est important. Être le principal pourvoyeur de votre bébé est parfois flippant, stressant ou éreintant. Mais c'est aussi une force. Vous êtes à même de lui offrir ce dont elle a besoin, la grande majorité des fois. Le maternage est la norme. Et le vivre, lorsque l'environnement est plutôt hostile, est une évidence. Suivre la norme de notre espèce de mammifères porteurs, c'est s'offrir le privilège d'être tout terrain. Des parents 4x4, quoi. Autonomes et sereins. C'est lâcher la dépendance pour la liberté. C'est ainsi qu'on a le luxe de partir partout, avec ma tribu, dès le plus jeune âge de mes enfants. Pas besoin de s'arrêter à la pharmacie pour le ravitaillement, pas besoin de paniquer car la poussette ne passe pas en station, pas de stress pour une pénurie de couches. On vit une réalité basée sur notre suffisance, et ça, c'est le bonheur. J'avais écrit ce texte suite à une vadrouille qu'on avait faite à la montagne, et ça avait été une semaine particulièrement neigeuse. Ma petite dernière avait alors tout juste 8 mois et donc elle avait passé son temps en porte-bébé en extérieur et elle était bien au chaud contre moi, ça avait été quelque chose de très confortable, on avait vraiment passé des super moments à jouer en plein air et je me suis dit à ce moment-là qu'en effet, c'est beaucoup plus facile de pouvoir vadrouiller un petit peu partout où on en a envie avec des enfants qui sont maternés. Alors ici, j'ai envie de vous dire le pourquoi le maternage proximal, il peut faciliter la vie de manière générale, mais encore plus quand on veut gagner un petit peu en liberté, en indépendance et en autonomie. Tout d'abord, oui, là je parle de maternage proximal parce que moi je le vis en tant que maman. Bien sûr, cet épisode, il n'est pas là juste pour parler aux mamans. Évidemment, le parentage proximal, ça existe. Bien sûr, les papas peuvent impliquer, ils contribuent aussi au bien-être de leurs enfants. Et on peut parler de couple parental, que ça soit d'ailleurs un couple de femmes ou un couple d'hommes, peu importe. Là, l'idée, c'est vraiment d'évoquer la proximité, c'est la manière dont on va soutenir son enfant dans son quotidien, dans ses apprentissages, dans son éveil, en répondant de manière rapide à ses besoins, tout simplement. L'idée, ça va être de faire en sorte d'apporter un sentiment de sécurité à nos enfants en leur montrant qu'ils peuvent compter sur nous, aussi bien pour les nourrir que pour les changer, que pour les réconforter, les porter quand eux en expriment le besoin. Donc tout d'abord, le maternage proximal, ça va nous permettre de faciliter nos déplacements. Ça va nous permettre d'avoir une option qui soit plus pratique et parfois même confortable que la traditionnelle poussette qu'on peut voir. Je crois qu'on a tous et toutes vécu un moment où on se retrouve en balade à un endroit, on se dit « Waouh, heureusement que je suis avec un porte-bébé, je n'aurais pas pu accéder à cette magnifique cascade, à ce lac de montagne ou à cette jolie crique. » Il y a vraiment des endroits comme ça qui ne sont pas aménagés pour passer en poussette et encore plus avec une poussette standard. Bien sûr, une poussette 4x4 de compétition que vous allez payer un bras va vous laisser accéder à un petit peu plus de liberté qu'une petite poussette canne. Il n'y a rien qui va vous apporter autant de liberté que de pouvoir mettre votre bébé directement en écharpe ou directement dans un porte-bébé physio. Ensuite, par rapport à l'alimentation de votre enfant, l'allaitement au sein, ça va être ce qui va être le plus facile, le plus évident pour pouvoir nourrir votre enfant partout, tout le temps. Ça peut parfois sembler être une raison bien secondaire quand on connaît tous les bienfaits de l'allaitement, mais ça n'en est pas moins un qui est très intéressant. Moi, personnellement, j'ai trouvé en tant que toute jeune maman que les premiers déplacements avec bébé, c'était vraiment hyper compliqué. Il y avait un gros sac allongé. J'étais très très bonne élève. Hein. J'avais ma liste qu'on m'avait donnée au départ à la maternité avec tout ce qu'il fallait. Alors c'était, je ne sais plus, hein, je vais dire au hasard, 6 body, 6 petits gilets manches longues, 6 pyjamas, tout ça. Et en fait, dans le sac allongé, bah, j'avais peut-être mis la moitié, mais j'avais tout le temps tout un tas de petits trucs. Donc c'était très encombrant. Il fallait penser à tout, se préparer, c'était quand même pas quelque chose de confortable. J'étais pas vraiment dans la détente hein, au moment où je devais préparer le moindre petit déplacement. Et au fur et à mesure du temps, j'ai lâché certaines choses. Je me suis rendu compte que, en effet, la liste standard correspondait pas déjà à nos besoins, étant donné que nous, on vivait l'hygiène naturelle infantile. Du coup, tout ce qui était body, c'était pas du tout adapté. Et petit à petit, j'ai trouvé des astuces, des petits trucs qui fonctionnaient pour nous. Et clairement, l'allaitement maternel nous a permis de pouvoir aller dans plein d'endroits différents sans avoir à se préoccuper d'avoir le bon nombre de dosettes, la bonne eau de qualité préparée en avance, mine de rien, et sans aussi être les yeux rivés sur la pendule, de se dire « Ah, alors à quelle heure je vais devoir donner le prochain? Est-ce qu'on peut bouger en fonction ?» Là, je ne me posais pas la question, je savais que j'avais tout à disposition, tout le temps tout prêt, optimal pour mon enfant, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très facilitant. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut faire partie, en tout cas, des avantages qui vont peser dans la balance quand elles vont décider d'allaiter ou pas leur enfant. Quand on fait un choix de maternage, bien sûr, on peut le faire pour que ça soit le bien-être de notre enfant qui soit en priorité, mais aussi, faut pas se leurrer, tous nos avantages pour nous, ils comptent également. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont importantes à préciser, je pense. Je me souviens quand je suis partie avec ma plus grande, qui a maintenant 15 ans, donc c'était il y a 14 ans. Je suis partie, elle avait 10 mois. entre ces 10 et ces 16 mois, j'ai voyagé donc pratiquement 6 mois en Asie du Sud-Est. Et on a des amis qui, au même moment, partaient avec leur fille qui avait 2 mois de moins. Et donc, eux, ils avaient pris tout le stock d'avance de lait maternisé bio qu'ils trouvaient en France. Donc, ça leur prenait la moitié d'un sac à dos. Ne serait-ce que pour ça. Là-bas, ça avait été compliqué pour eux pour s'approvisionner avec une eau qui ne soit pas déminéralisée pour que justement elle puisse être le meilleur possible pour leur enfant. Et à côté de ça, ben moi, c'était vraiment, je pouvais me balader n'importe où sans veiller l'heure du biberon, savoir combien de doses il fallait que je prépare en avance et avoir un sac spécialement dédié à ça. Et je pouvais allaiter facilement ma fille partout, et même beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire, que quand j'étais en France, parce que 10 mois, il y a assez peu d'enfants qui sont encore allaités en France, et ça commence à faire des fois un petit peu tiquer, dire « Ah, oh, bah dis donc, elle tète toujours, elle tète encore !» Alors que là, dans les pays où j'étais, c'était une évidence. Je me souviens très bien au Laos, dès qu'elle pleurait un petit peu, alors ça peut aussi... paraître surprenant parce que il y a toujours les personnes qui pensent que le sein c'est seulement pour nourrir et qu'on ne devrait pas proposer l'allaitement comme solution miracle à tout, tout le temps pour tout. Toujours est-il que là, dès qu'elle pleurait et que j'étais au milieu de personnes autochtones, donc là c'était au Laos notamment, il y a toujours une maman qui me disait « Hi Nom, donne-lui du lait ». Donne-lui du lait, elle pleure, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche tout le temps. Alors à chaque fois, c'était « Allez, donne-lui le sein ». Et je me souviens très bien de petites filles, enfin c'était des jeunes filles qui rigolaient parce que elle m'avait dit « On voit quel sein tu as donné le dernier ». Et mine de rien, c'était un truc, je vois assez peu d'ados, de pré-ados qui en France, non seulement se permettraient cette simplicité de parler du corps comme ça de manière complètement asexuelle et qui auraient l'œil pour se dire « Ah bah oui, il y a un sein qui est vraiment différent de l'autre, c'est qu'en fait le bébé a tété beaucoup, donne-lui l'autre côté ». Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui sont vraiment agréables, je trouve, à vivre comme expérience, parce qu'on se rend compte qu'il y a des grandes différences et que là, c'est vraiment une histoire de culture. Et moi, vivre ces moments-là, en fait, ça me permet vraiment de prendre du recul sur ce qu'on vit et de pouvoir piocher dans toutes les solutions disponibles pour trouver ce qui me convient vraiment, moi, en tant que maman. Et en fait, ça, on a vraiment la possibilité de choisir ce qui nous convient pleinement en tant que parents, au-delà des injonctions qu'on peut avoir dans notre propre culture, sachant qu'il y a des injonctions également dans d'autres cultures qui ne sont pas forcément préférables. Ensuite, on va voir tout ce qui est accompagnement à la continence, avec donc est-ce qu'on part avec des couches, est-ce qu'on part avec des couches qui sont jetables, est-ce qu'on utilise des couches lavables, est-ce qu'on se lance dans l'incroyable aventure de l'hygiène naturelle infantile. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Moi, on m'a régulièrement dit « Ah, mais pourquoi tu te prends la tête, même en voyage, d'avoir des couches lavables? Ça serait tellement plus simple avec des jetables. » Alors, moi, j'ai pas du tout cet avis-là. Au contraire, j'ai vraiment la sensation que la liberté d'avoir des changes lavables, ça me permettait d'être n'importe où et de pas avoir à me préoccuper de « Est-ce que je dois faire un réapprovisionnement en couches? Je vais pas trouver forcément la marque qui me plaît. » En plus, je sais que j'ai des exigences par rapport à la qualité des produits qui sont sur la peau de mes enfants. Donc ça m'embête vraiment d'avoir des couches pleines de produits chimiques. Les seules marques qui vont proposer des alternatives aussi bien saines pour la planète que pour mon enfant, je ne suis pas sûre d'en trouver là où je vais partir en vadrouille. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de confortable d'avoir suffisamment de change. Donc là, moi, la petite astuce, c'est que j'ai prévu un roulement pour avoir tout ce qu'il faut sur au moins 3 jours. Donc avec l'hygiène naturelle, à la place, j'utilisais des couches lavables pour la nuit, mais sinon c'était des langes coton qui sont super fins, qui sèchent très vite, que je pouvais, avec le moins de petits pipis, laver très facilement à la main et faire assécher. Et en fait, ça me permettait d'avoir suffisamment d'autonomie pour ne pas être dépendant ni d'une laundrie, ni d'aller chercher, courir à droite à gauche pour avoir une machine. Et ça, pour nous, ça nous a permis d'aller dans des endroits qui étaient un peu plus reculés, où on avait vraiment une grande sérénité par rapport à cet accompagnement à la continence et par rapport au fait d'avoir notre bébé toujours propre sur lui. Ensuite, au niveau de l'alimentation, il y a la diversification menée par l'enfant qui nous a bien facilité la tâche. Mon premier voyage avec, en tant que jeune maman, ma fille avait 10 mois, elle n'était pas vraiment intéressée par la diversification alimentaire à ce moment-là. Et j'avais vraiment à cœur de lui offrir des produits qui soient le plus sains, le plus naturel possible. Donc j'ai carrément, dans mon sac à dos, embarqué un petit cuiseur vapeur. Alors il ne faisait pas mixeur, l'idée c'était de pouvoir faire cuire des morceaux et pouvoir lui donner directement qu'elle puisse les croquer en diversification menée par l'enfant. Moi je proposais et elle disposait. Sauf qu'au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que je proposais beaucoup et elle disposait pas du tout. Et que c'était moi qui me privais de bons petits plats pour finir les légumes vapeur que je lui avais préparés. Et que finalement, elle ne s'intéressait que par ce qui était dans nos assiettes. J'ai dû lâcher prise. Et au final, je sais plus, je crois que j'ai revendu ce petit cuiseur vapeur pour voyager beaucoup plus léger. C'était très confortable. Je faisais toujours en sorte... quand je préparais un repas ou je commandais un repas, de faire quelque chose qui puisse être sans piment pour elle. Et puis, elle a vraiment bien profité de plein de découvertes culinaires différentes comme ça. Et sa diversification s'est très, très bien passée. C'est d'ailleurs une enfant aujourd'hui qui aime beaucoup les épices et le piment. Ce que j'aime, moi, dans cette idée du maternage proximal, c'est qu'en fait... on va vraiment compter sur nous-mêmes en tant que parents pour trouver les ressources et pour répondre aux besoins de nos enfants sans passer par tout un tas de matériel, sans passer par toutes ces contraintes qu'on peut avoir parfois. Ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, sur l'humain, sur le contact, sur le lien qu'on veut tisser avec nos enfants et donc de minimiser un petit peu tout ce qui est superflu. On a tous et toutes connus, la petite balade sympa qu'on veut faire et puis en fait on se rend compte que c'est une balade qui n'est pas du tout praticable en poussette et là il y a deux options, soit tu as l'habitude de porter ton enfant et tu es équipé pour avoir un moyen de portage physiologique ou une écharpe qui te permette de faire la balade que tu avais prévue initialement et te faire plaisir et d'en mettre plein les yeux et de profiter pleinement, soit tu dis « Ah ben mince, ben tant pis, ben au final on va rester sur la petite route là, puis on va se faire un tour beaucoup plus petit et on ne pourra pas aller profiter des bienfaits d'un lieu qui est complètement magique mais qui est inaccessible. » Et ça, moi, je l'ai vécu très souvent, de me retrouver à des endroits où je me dis « Mais heureusement que j'ai des enfants qui sont portés, parce que sinon j'aurais jamais pu accéder à ce lac magnifique, à cette cascade, à cette petite crique. » Et ça, c'est quand même... un vrai plaisir de se dire qu'on peut s'offrir cette liberté-là avec des enfants, même tout petits, qu'on ne pourrait pas si on était dépendant de matériel de puériculture. Parce que dans le quotidien, on a quand même souvent l'illusion que ce qui est confortable, c'est d'avoir tout un tas de matériel, de choses à utiliser, d'avoir une baignoire bébé. Alors oui, une baignoire bébé, c'est pratique, mais sincèrement, pour m'en être passé pendant des années, on peut très bien voyager sans et puis trouver une petite bassine à tel endroit qui fera très bien l'affaire, un autre endroit, utiliser un espace qui puisse servir pour le bain libre où l'enfant il est juste sur une serviette et puis on l'arrose, on l'asperge d'eau comme ça, selon la température qu'il fait, ça peut être très agréable et vivre tous ces moments qui sont un petit peu différents, qui vont nous demander un peu de résilience, un petit peu d'adaptation, un peu d'imagination aussi parfois, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient renforcer de manière positive notre confiance en nous en tant que parents et en tant que personne en fait, à part entière. Je sais que l'image va pouvoir paraître un petit peu forte et faire un peu froncer des yeux certaines personnes, mais moi ça me fait un petit peu penser, alors j'ai été fumeuse un certain nombre d'années, et ça me fait un petit peu penser à cette chose-là qu'avant j'avais besoin d'avoir un certain nombre de paquets de tabac d'avance quand je partais en voyage ou quand j'en avais plus, si c'était à une heure où les tabacs étaient fermés, il fallait que je m'approvisionne de ma drogue. C'est un petit peu la même chose en fait quand on est dépendant des petits pots pour bébés ou de choses comme ça dont on pourrait en réalité se passer, qu'on nous a vendu comme quelque chose d'utile, de pratique et de nécessaire quand on est jeune parent, et bien ça crée une dépendance. Alors forcément c'est pas la même addiction, on est bien d'accord, mais toujours est-il que ça nous rend dépendants d'un approvisionnement et mine de rien on perd en liberté. Quand je suis partie avec ma troisième alors qu'elle avait 6 mois. C'était assez drôle parce que on avait en France eu l'occasion de réserver un logement où on s'inquiétait qu'il n'y ait pas de lit pour bébé et de se dire mince, il ne va pas y avoir suffisamment de lits pour le nombre d'enfants. Alors que là, pour le coup, dans un pays où la norme, c'est le cododo, ça leur avait pas du tout venu à l'esprit de mettre un lit bébé, sachant que de toute façon, il y avait le lit parental qui ferait très bien l'affaire, sachant que d'autant plus, là, c'était des lits qui sont naturellement en king size, donc je ne sais plus exactement si c'est 170 ou même 180, donc c'est très confortable pour dormir avec un enfant en bas âge. Alors si je peux vous livrer les petits conseils pratiques qui, moi, m'ont vraiment facilité la tâche pour pouvoir voyager un petit peu partout avec les enfants, c'est de réfléchir à votre préparation en amont. Plus les parents vont être sereins, plus ben, les bébés et puis les enfants vont être sereins. Donc ça, bien sûr, on n'est pas tout égaux et égales. Ça va vraiment dépendre ben, de vous, votre habitude ou pas de voyager. Si c'est les premières fois, l'idéal, c'est de partir pas trop loin, pas trop longtemps, dans un climat qui soit plutôt tempéré comme celui que vous avez l'habitude de vivre au quotidien. Forcément, partir dans le grand froid ou un endroit où il fait très chaud, où il y a beaucoup de moustiques, ben, ça va être une intendance de plus à gérer avec des petites habitudes que vous allez devoir prendre. Alors après, ça se fait, mais c'est sûr que plus vous allez trouver un quotidien qui est éloigné du vôtre, plus ben, ça va vous demander des ressources. L'idée, c'est de vous faire confiance et de ne pas forcément viser vraiment partir à l'autre bout du monde en backpack avec votre bébé. Pas du tout ça, mais en tout cas, de trouver quel est le juste milieu pour que vous passiez des moments qui soient agréables, qui soient confortables, sans trop vous prendre la tête. Après, par rapport à l'habillement des enfants, moi, j'ai trouvé ça super confortable d'avoir des vêtements qui soient évolutifs. Donc là, clairement, les dernières choses avec lesquelles on est parti, c'était alors peu de vêtements, on a tendance à en prendre toujours trop, ça se lave très bien, les petits vêtements d'enfant à la main, ça se sèche très bien. Dans beaucoup d'endroits, on va pouvoir avoir des temps de séchage très rapides au soleil, sans souci. Moi, j'aime les matières qui sont naturelles. Avec vraiment l'idée de faire des petites capsules, c'est-à-dire que j'emmène peu de vêtements, mais je fais en sorte que sans être une grande fan de mode, que les hauts puissent être assortis aux bas. Et en gros, si je pars avec 3 hauts et 3 bas, que tous y puissent aller les uns avec les autres, quoi. Il y a une chose aussi que je trouve importante ici à souligner, c'est que ça ne sert à rien de prendre trop de jouets. Vraiment, vous allez pouvoir mesurer combien nos enfants sont pleins de ressources pour jouer avec tout et n'importe quoi. Moi, mon premier road trip en camion, j'avais vraiment fait une jolie petite caisse où j'avais sélectionné avec amour des petits livres, des petits jeux. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'il y a un livre qui était le livre fétiche qu'on avait lu. Et en fait, tout le reste n'avait pas bougé. À côté de ça, mes enfants avaient joué avec des bâtons, ils avaient joué avec des cailloux, ils avaient joué avec des feuilles, avec tout et n'importe quoi. Donc vraiment, moi, je trouve ça chouette de les voir jouer avec des choses qui sont naturelles, de les voir développer leur imagination et de pouvoir ainsi ben, ne pas porter la charge de gérer encore une fois du matériel qui serait peut-être intéressant si on est posé dans un contexte particulier, mais qui là, en l'occurrence, en voyage, est complètement superflu. Après, concrètement, si je peux vous donner juste quelques petits conseils pratiques, quelques petites astuces qui, moi, m'ont soutenue, c'est de faire en sorte ben, de maintenir au maximum les routines. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile avec un bébé materné quand sa norme, c'est de s'endormir au sein ou en porte-bébé, de pouvoir continuer à le faire un petit peu partout où on va. Concrètement, je sais que c'est très confortable d'avoir un enfant qui dort dans un lit quand on doit le mettre dans le noir, mais si on est emmené à vadrouiller, ben, réussir à retrouver ce même environnement, à recréer ça, c'est quand même tout un art que certains parents maîtrisent très bien, mais qui pour moi était vraiment une contrainte. Donc oui, en effet, dans le quotidien, je sais qu'il va y avoir plusieurs années où mes enfants vont être complètement dépendants de moi, mais j'accepte aussi ça parce que je suis déjà convaincue que ça va forger leur sécurité et qu'ils vont pouvoir se détacher au fur et à mesure quand eux, ils sont prêts. Mais il y a aussi cette partie-là de moi où je me dis que ça me permet vraiment de pouvoir être le plus mobile possible. Autre petite chose, je ne saurais que vous conseiller de prévoir des moments de repos, de pas avoir un programme qui soit trop chargé et de trouver un rythme qui respecte au mieux les besoins et les envies de chaque personne de votre famille. Là, concrètement, ça fait partie de la manière ça fait partie des choses qu'on a pu nous dire. Tu as un avant et un après enfant. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir voyagé de manière très différente. Je suis vraiment partie plusieurs mois avec un sac à dos, avec un enfant en porte-bébé, avec juste vraiment un backpack minimaliste. Mais en effet, c'est peut-être aussi parce que avant, moi, je n'avais pas tendance à vouloir faire 30 milliards de choses, à tout voir, tout faire, à essayer, on va dire, de rentabiliser au maximum ce temps-là. Et j'aimais déjà pouvoir profiter vraiment en douceur, en lenteur de l'environnement que je découvrais. Donc ça n'a pas changé pour moi. Mais si vous avez tendance à être plutôt adepte au départ, de charger à fond votre programme pour pouvoir vous en mettre plein les yeux, essayez de prévoir bien moins chargé. Et c'est plus simple de se dire, tiens, là j'ai l'énergie, j'ai les ressources pour rajouter des choses au programme, que d'avoir la frustration de dire, non, finalement, là, clairement, c'est la sieste, je suis fatiguée, je ne ferai pas ça. C'est toujours un petit peu plus difficile dans ce sens-là. L'avantage vraiment du maternal, c'est que ça nous permet justement d'être flexible et de s'adapter. On peut aussi, du coup, faire face à des imprévus. Et à ce moment-là, on sait qu'on a toutes les ressources disponibles sans dépendre d'un lieu ou d'un matériel spécifique. Et moi, je trouve que oui, parfois, c'est la difficulté, parce que du coup, on a une plus grande responsabilité quelque part. Le mot responsabilité n'est peut-être pas adapté, c'est plutôt un investissement plus grand forcément. Il y a plus de choses qui pèsent quand même sur nos épaules, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment toute la magie. C'est de se dire, on est pleinement adaptable et puis du coup, on peut faire vraiment confiance à notre instinct. En tant que parent maternant, en fait, vous allez avoir de plus en plus la conscience que vous êtes les personnes qui savent le mieux ce dont votre bébé va avoir besoin. Et donc, faire confiance à votre instinct et suivre votre intuition, ça va, moi, je trouve, être encore plus décuplé quand vous êtes hors de votre environnement. Parce que c'est vous qui allez savoir comment être là, disponible pour votre enfant et répondre le mieux à ses besoins. Vous n'aurez pas les conseils mal avisés qui tombent parfois un peu de l'entourage. Quoique, selon votre destination, c'est aussi possible que vous ayez des mamas qui se permettent de venir vous proposer, vous prodiguer leurs conseils, et parfois pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Il peut y avoir aussi des petits défis qui sont dus aux différentes cultures. Par exemple, on va avoir toute la sud-est asiatique. Alors moi, c'est vraiment cette partie-là du monde que je connais le mieux. Donc le sud-est asiatique qui est très kids-friendly. Les enfants sont les bienvenus partout, que ce soit dans les trains, que ce soit dans les restaurants, que ce soit sur les marchés. Vous allez pouvoir avoir du relais qui est disponible. Moi, je crois qu'il n'y a pas un seul endroit en Malaisie, par exemple, où j'ai eu à avoir ma fille sur les genoux pendant que je mangeais, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui proposait de la prendre. Et j'avais une enfant qui était très contente de voyager de bras en bras comme ça. C'était vraiment pas un problème pour elle. Et du coup, c'était tellement confortable, c'était tellement agréable. Et à côté de ça, d'autres défis, c'est de se dire que parfois, il n'y a pas la même manière de fonctionner. Et il y a des petites choses qui, moi, en tant que maman française, me choquaient. Par exemple, le fait d'essayer d'endormir mon enfant en porte-bébé et d'avoir tout le temps quelqu'un qui passe à côté, qui voit que mon enfant est en train de s'endormir et qui arrive, qui dit « Oh, mais il est trop mignon !» et qui lui pinçote les joues et qui veut lui faire un petit bisou. Et je me dis « Ah, mais non !» Ça, c'est pas possible. Et voilà, oui, ça, il peut y avoir aussi des moments comme ça. Et en même temps, je trouve que ça me permet, ces expériences, elles sont quand même riches parce qu'elles permettent de vraiment savoir ce dont on a envie, nous, en tant que parents. Elles nous apprennent à nous positionner et à le faire de manière le plus juste possible, dans la bienveillance et dans la tolérance aussi. Et moi, je trouve que c'est un exercice qui n'est pas évident, mais qui fait vraiment du bien, qui nous fait grandir en tant que parents. Donc voilà, c'était un petit épisode assez décousu qui me tenait à cœur de vous partager. Si l'envie est là, ne vous privez pas de partir en vacances, de partir en voyage, de rencontrer d'autres cultures, d'autres horizons et d'ouvrir votre esprit à différentes manières de vivre. Moi, je suis convaincue que ainsi, on gagne en respect. Et en fait, vivre cette différence, c'est aussi s'autoriser à la gommer et ainsi voir, se voir comme des citoyens du monde. Et je pense que ça, on va en avoir besoin dans le monde qui arrive, de personnes qui soient respectueuses et qui voient au-delà des couleurs, des croyances et des cultures. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à partager autour de vous si cet épisode vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine.